Trainville PM. La voix est libre.
Je n'ai pas une idée, Chantal. On est capable de jouer 40 minutes, on n'est pas capable d'en jouer 60. On encourage les joueurs à jouer 60 minutes. On leur dit de jouer sur le bout des pieds, pas sur les talons en troisième période. Assez de jouer une troisième comme on a fait les deux premières, mais ça n'arrive pas. Puis, tu sais, à un moment donné, tu regardes les buts qu'on donne, on est sur les talons, on peut pas jouer pour les joueurs. Puis à un moment donné, il faut que la décision vienne de eux, là, d'arrêter de dire qu'ils manquent de confiance.
Ouais, Claude Julien hier qui commentait cette autre défaite de 5-2 du Canadien. D'abord, salutations aux gens de la Mauricie du Centre du Québec qui se joignent à nous. Luc Lavoie, la voix est libre. Bonjour.
Salut Bernard.
Bon, écoute, tu l'as écouté comme moi, je pense, hein?
Oui.
Écoute, on s'est dit la même affaire. Quand ils ont pris l'avance 2-0, on s'est dit, bon, ben, on va perdre.
Écoute, j'étais assis avec un ami, on regardait ça. J'ai dit, bon, à 2-0, je commence à être inquiet.
C'est incroyable.
Alors que l'inverse s'est souvent produit. C'est ça qui est bizarre, hein? Les Canadiens, souvent, cette année, ont fait des remontées spectaculaires de 3-1 jusqu'à 4-3, puis des choses comme ça. Mais là, je suis vraiment... Et moi, le point de presse de Claude Julien...
Ouais.
M'a semblé être le point de presse d'un coach qui achève son séjour à Montréal.
J'allais dire le coach, le point de presse de la fin. Là, je veux juste vous dire, pour vous situer, on fait pas juste faire du blabla là, autour de la dernière partie. On s'est dit, Luc et moi, il faut parler dans le fond des raisons pour lesquelles notre équipe s'est comme liquéfiée là, hier, encore une fois, parce que c'était la sixième défaite là où on prenait l'avance, on était en avance après deux périodes, puis finalement on perdait. Ok, on est l'équipe qui a perdu le plus souvent après avoir eu l'avance après deux périodes cette année là. Ça veut dire c'est vraiment pas une performance dont on doit être fier. Et Luc et moi, on a lu sur le site Atletico des Athletic un texte assez formidable sur des équipes dans le fond qui réussissent à se reconstruire mentalement après avoir traversé une épreuve, après avoir douté d'elles-mêmes, elles réussissent à surmonter ce manque de confiance et à recommencer à croire en elles-mêmes et à croire les uns envers les autres au sein de la même équipe. Et on s'est dit, on va élargir la discussion, on va pas juste parler de sport, on va parler de cette idée qu'à un moment donné, dans un groupe, tu traverses une crise de confiance et tu réussis à t'en remettre et tu réussis à redevenir gagnant.
Et on se dit, moi je le dis d'entrée de jeu, généralement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui exerce un leadership. C'est rare que cette chimie-là que tu décris se produit simplement parce que les gens ont fini par penser de la même façon. Il y a un leader dans ça. Moi, je l'ai vécu en politique, je peux le donner, cet exemple-là.
Vas-y.
1988, une des campagnes électorales les plus dures de l'histoire du Canada, celle qui portait sur le libre-échange.
Mm-hmm.
Et il y a peu de gens qui connaissent ces histoires-là, puis de toute façon, ça peut devenir ringard à la longue, mais la réalité, c'est qu'en 1988, Mulroney a déclenché l'élection, puis les stratèges qui étaient à la tête de la campagne avaient développé une idée que je trouvais totalement farfelue à l'époque, qui était que, tu vas voir, le libre-échange, ça sera pas un enjeu, parce que les gens ont déjà escompté ça, ils ont déjà pris ça, ils tiennent ça pour acquis, puis c'est tout. Fait qu'on va faire campagne sur toutes sortes d'affaires autres que ça. Puis à un moment donné... Il y a eu un débat, puis c'était dur la campagne. C'était une époque où les campagnes duraient 56 jours.
Mm-mm.
Et on avait des manifs du matin au soir. Moi, je travaillais avec M. Mulroney dans cette campagne-là, sur l'avion du premier ministre. Et à un moment donné, il y a eu un débat des chefs où, en anglais, M. Mulroney, il n'aime pas que je le dise, là, mais il s'est fait avoir. John Turner, il a descendu une droite à un moment donné qui a été assez dévastatrice.
C'était laquelle encore, rappelle-moi?
C'est quand Turner a dit, c'était en anglais, là, mais
oui.
I happen to believe that you're selling us out.
Ah oui, c'est ça.
Je,
sur le libre-échange.
Sur
libre-échange. Vous nous vendez pas cher aux Américains,
ouais,
en
voilà.
Gros. Ouais, ouais.
Et Mulroney avait été un peu décontenancé, puis il n'avait pas franchement été à son meilleur pendant tout le débat. Alors ça, c'est le débat a lieu. Quatre jours plus tard, il sort un sondage. À l'époque, c'était Gallup. Gallup, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus, mais à l'époque, c'était une référence.
Oui.
Et on avait commencé la campagne électorale à 42% dans les sondages, puis on était soudainement à 33%.
Oh,
on venait de manger une débarque incroyable.
Là, vous en allez vers la défaite, là.
Puis là, on est à un peu moins que deux semaines, 12 jours à peu près de la fin de la campagne. Mm-mm. Et là, l'autobus, parce que tu sais, on parle de l'avion, mais il y a aussi l'autobus de campagne, là, ça se passe en bas. On est à bord de l'autobus de campagne, puis ceux qui sont dans le même autobus que le premier ministre, c'est les plus proches conseillers. On est là, puis tout le monde, comprends-tu, est déprimé. Tout le monde
a la faim à la terre.
Complètement. Puis ouais. Même que ça parle presque pas, puis tout ça.
Pis, vous pensez que c'est fini, Luc? Vous pensez que c'est fini?
Oui, on pense ça. Oui, on pense ça. Et à la fin, on fait quelques activités. Ce jour-là, c'était un dimanche. On fait quelques activités dans la région d'Ottawa, puis c'est tout. Puis à un moment donné, à la fin de la journée, le premier ministre, M. Mulroney, a décidé de nous mettre ensemble puis de nous remettre sur pied. Et là, il nous a donné un pitch, là, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement. Là.
Un pep talk, un discours très, très, très motivant, très stimulant.
Ouais, qui était à la fois, j'avais trouvé ça brillant, là, j'avais vu c'était quoi, moi, vraiment, là, je le vivais, c'était quoi le leadership. Là. D'une part, il nous a engueulés, il nous a commencé par nous dire, c'est comment on a arrêté de faire les losers. Là. Puis deuxièmement, il nous a dit, puis on a senti que c'était vrai, les boys... Suivez-moi, OK? Suivez-moi, on va la gagner, la campagne. Puis s'il y en a qui sont pas sûrs qu'on peut la gagner, débarquez de l'autobus maintenant, on n'a pas besoin de vous autres. Je dis, oh boy! Puis effectivement, le soir même, on s'est retrouvés dans une suite d'hôtels avec lui. On était trois, je pense. Et là, il nous a dit, la pub de campagne, je ne veux plus avoir, est plus adéquate. Le discours qu'on tient, je ne veux plus y voir. On réécrit les discours, pour les écrire nous autres même. C'est pas le monde au sol qui vont nous fider leur espèce de bébelle. Puis telle activité, on va l'éliminer. Tu sais, c'était le tac, 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 tac.
Un plan de match.
Ouais.
Un ordre de bataille.
Puis on sentait vraiment le chef. Tu sais, vraiment, là. C'était à la fois intimidant et ça suscitait l'admiration. Et tout a changé. La campagne a changé de rythme. Nous autres, on est devenus, puis on travaillait déjà fort, on est devenus littéralement qu'on travaillait 24 heures par jour. Ça a été, là, tu sais, là, il nous a mis en tête, enlevez-vous de la tête qu'on va perdre, OK? Parce qu'on va gagner. Et tu sais quoi? 12 jours plus tard, les chiffres avaient été renversés, puis on était revenu à 42% là où on était.
Vous avez gagné une élection avec une bonne majorité.
C'était une deuxième majorité de suite. C'était la première fois au 20e siècle qu'un conservateur réussissait ça.
Moi, je vais te raconter mon histoire. 2011, donc c'est un peu avant l'élection de 2012. 2011, le Parti québécois est dans schnout. Parce que, rappelez-vous, il y a des députés qui ont démissionné, Pierre Curzi, Louise Beaudoin, Lisette Lapointe, la conjointe de Jacques Parizeau, Jean-Martin Rossan, tout ça dans la foulée de toute l'histoire autour de l'amphithéâtre Vidéotron. OK? Ouais. Tu te rappelles de ça, Luc?
Tout à fait.
Le gouvernement du Québec décide de verser 400 millions pour financer un nouvel amphithéâtre à Québec. Il y a des gens de Québec qui sont pas d'accord, ils veulent contester ça. Et là, il y a un projet de loi qui est déposé pour protéger, dans le fond, le financement de l'amphithéâtre de toute poursuite devant les tribunaux. Puis là, tu as des députés qui sont pas d'accord au PQ puis qui démissionnent. Et là, le PQ tombe sous les 20% d'appui.
Et là, le couvercle l'a levé, là, oui.
Ah là, écoute, là, Charest est supposé être battable avec tous les scandales puis l'histoire du printemps étudiant. Sauf que là, le PQ... est en train, dans le fond, de se désagréger, tombe sous les 20%, et là, le doute s'installe, et là, Legault, entre-temps, a fondé la CAQ, et là, il y a, à l'interne, on se dit, coudonc, c'est-tu Legault qui va ramasser les morceaux, et là, je me rappelle de ce caucus, en janvier, il y a un stratège, que je nommerai pas, mais qui va se reconnaître, qui arrive au caucus, puis qui dit, voici le plan de match. Et si on suit notre plan de match, ceci, 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 cela, puis si on arrête de tirer dans la chaloupe puis qu'on travaille tout le monde ensemble, on a encore le temps de revenir à temps puis de gagner l'élection. Et puis effectivement, on a la première réaction, on s'est regardé puis on s'est dit, hey, boy, va falloir être bon en maudit. Et puis effectivement, on a été bon. Pas assez bon pour gagner une majorité, mais assez bon pour gagner quand même et battre Jean Charest par quelques comtés. Et ce que j'ai vu dans ces mois-là qui ont précédé, c'est une cohésion puis un travail d'équipe. C'est-à-dire que t'arrêtes de travailler chacun de ton bord, tu mets de côté tes ambitions personnelles puis tu décides de travailler pour le groupe, tu décides de travailler pour l'équipe. Et puis ça a marché, je l'ai observé, je l'ai vu, ça, parce que je veux dire, à un moment donné, on donnait pas cher de notre peau, y compris nous-mêmes, on donnait pas cher de notre peau. Je me rappelle, Luc, j'envisageais auprès de mes proches conseillers la défaite, là. La défaite dans mon propre comté, là. Moi, dire, c'est
à
pas
ce
trop, trop
ça, j'avais pas, non.
C'est pas trop, trop sympathique, là. Quand tu dis, ça se peut que ça soit fini, là. Ça se peut que je me fasse battre auprès. Pas juste le parti, là. Ça se peut que moi-même, parce qu'on était tellement en bas d'un sondage. Mais tout ça pour te dire que de ton côté, puis du mien, puis c'est pour ça que j'interpelle les auditeurs, on a eu dans notre vie des expériences où de la défaite a jailli une victoire parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est levé debout, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a redonné confiance, qui est arrivé avec un plan de match, une stratégie, et le groupe a fini par y croire.
Ce qui tente à confirmer ce que moi j'ai surtout appris en politique, à savoir que le leadership, c'est dur à définir, mais c'est fondamental. Quand on se sent tout perdu, là, qu'on est comme on l'était nous en 88, là, ça prend quelqu'un qui arrive puis il fait pas juste du ah ra 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 ra. Non, voici le plan de match. Bang 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 bang. Puis ça va marcher comme ça, puis on va gagner. Vous comprenez, on va gagner. Puis s'il y en a qui le croient pas, allez-vous-en chez vous. Et monsieur, et là t'as senti là, il nous mettait une pression, puis c'était la bonne chose à faire.
Et ce qui est pathétique dans ce qui est arrivé hier avec cette défaite des Rangers, contre les Rangers, dis-je, et les autres défaites du même type qu'on a eues cette année, c'est que hier, je sais pas si c'était comme moi, là, mais on écoutait là, Claude Julien, puis on se disait, le gars, il est à court d'arguments, il sait plus quoi donner comme raison. Écoute, quand il répond à la question de Chantal Maccabé, puis il dit, écoute, je suis pas capable de t'expliquer pourquoi on a encore perdu après avoir pris l'avance après deux périodes. Je suis pas capable. On est capable de jouer 40 minutes, mais on n'est pas capable de jouer 60 minutes. Puis il dit, dans les faits, c'était comme une espèce d'aveu d'échec comme coach.
Ouais, un aveu de faiblesse, d'échec. C'est quelqu'un qui disait, écoute, ils veulent plus m'écouter. Et ça, c'est dans le monde du sport professionnel et dans celui du hockey. Moi, là, hier, j'étais sûr quand je l'ai vu. Que lui, sa saison va se terminer puis il sera plus à Montréal l'an prochain.
Là, on a Robert qui nous appelle. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, là.
Écoutez, c'est beau là, de s'inspirer de grands moments où les gens se rallient, etc. Là. Mm. Mais le fait est que quand les Canadiens font face à une équipe qui est plus talentueuse qu'eux, ils peuvent pas passer à travers. On l'a vu. Les équipes, là, des bonnes équipes arrivent, là, sont sur l'air d'aller en première, deuxième période. Fait que là, le Canadien paraît bien. Mais après ça, quand eux autres, justement, ils ont leur cri de ralliement, puis c'est OK, let's go, là. On s'en va en troisième, on va les battre. Eux autres, ils le font, mais ils ont le talent pour le faire. Fait que les joueurs, là, il y avait 5 joueurs de la Ligue américaine hier. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Fait qu'à un moment donné, c'est sûr, ils s'effondrent.
Mais néanmoins, vous serez d'accord avec moi, les deux premières périodes, ils ont offert du hockey qui avait de l'air du hockey de la Ligue nationale. Puis tout à coup, ils s'effondrent.
J'ai écouté le match hier, là, puis je trouvais ça très brouillon, puis ça jouait souvent entre la ligne bleue et la ligne rouge. Mm-hmm. Et, tu sais, quand on se met à la place de Claude Julien, là, puis moi, c'est pas mon favori, là, mais lui, il essaie de faire les séries, puis son directeur général, il échange 4 joueurs pour des choix. Fait qu'on manque de joueurs, on manque de talent, puis on en enlève 4 réguliers, puis là, on fait monter des gars de la Ligue américaine. Comment vous voulez que le coach se sente, lui?
Ouais.
Ouais. Merci, Robert, pour l'appel. Dans le fond, Luc, si Mulroney avait pas eu de talent, il avait beau être inspiré, il aurait probablement pas mené les conservateurs à la victoire en 88. C'est un peu ça que Robert nous dit. C'est-à-dire, le talent seul n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut que le talent soit inspiré. Mais l'inspiration seule, sans talent, tu peux pas battre une équipe qui a l'un et l'autre.
Bien que certains vont te rappeler Miracle on Ice, la victoire des Américains en 1980 à Lake Placid contre l'équipe, la grande puissance de l'URSS de l'époque.
Ouais.
Donc, c'était certainement pas le talent qui les a fait gagner. C'était une équipe qui était soudée. On avait l'impression qu'à toutes les fois qu'un Russe s'approchait avec la rondelle, t'avais à peu près 4 joueurs autour de lui. Tu sais, il y avait quelque chose de magique. Je me souviens de l'avoir vu en direct. Le coach qui s'appelait Herb Brooks, qui a pas fait long feu dans la Ligue nationale par la suite.
Et qui est décédé depuis, d'ailleurs.
Qui est décédé depuis. Mm. Mais comment il a réussi ça? C'est pour ça que ça a donné lieu à un film, puis tout ça. Comment tu réussis à faire croire à des gens de ce calibre-là qui sont capables de battre une des plus grandes équipes qu'on a jamais vues dans l'histoire du hockey?
En tout cas, une chose est sûre, Luc, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il reste quand même encore plusieurs matchs. Là, on est à 9 points des Maple Leafs
qui
ont gagné
hier
contre la Floride. Là, honnêtement, moi, hier, j'avais encore espoir parce que je me disais, si on gagne contre les Rangers, puis si jamais Maple Leafs perdait, tu sais, on était encore là, il y avait encore une chance. Mais je vais te dire, au-delà du 9 points qui nous sépare maintenant des Maple Leafs, la manière avec laquelle on a perdu hier, c'est ça qui me fait déchanter. C'est ça qui me fait perdre espoir, Luc. Tu comprends?
Ben, forcément, je veux dire, écoute, on fait ça depuis combien de temps? On fait ça, là. C'est rendu une vraie joke. C'était 2-0. Regarde, je te le dis, j'étais avec un copain. Oh boy, on est sûr de perdre 3-2, peut-être 4, peut-être 5, mais on est fini, là.
On a perdu 5-2. Tu sais, ce qui est embêtant, c'est que Marc Bergevin a dit un peu plus tôt cette semaine que, d'après lui, le noyau de joueurs qu'on a présentement est le bon noyau et c'est celui avec lequel on va éventuellement se remettre à gagner.
Hey boy.
Syncope.
Mais moi, j'entends dire aussi par des gens là, qui sont autour des Canadiens que Julien est un peu en panique puis qu'il commence à s'en prendre aux recrues. Ça, d'habitude, c'est des coachs qui sont en fin de parcours.
Oui, mais moi, je vais te dire une chose.
Par exemple, il paraît qu'il est très dur avec Nick Suzuki. J'ai jamais compris, même sur la place publique, il l'a été. C'est notre plus belle découverte de l'année. C'est la seule affaire qui nous a intéressés.
Je vais te dire une affaire. Si ce que tu dis est vrai, là, puis qu'actuellement, Julien prend pas soin de Suzuki, là, puis travaille pas là pour renforcer sa confiance plutôt que de la gangréner. Là. Si ce que tu dis est vrai, là, ça, là, c'est une raison pour dire c'est terminé, Claude. C'est terminé. Si t'es pas capable de voir que Suzuki, s'il y en a un qui incarne l'avenir du club canadien, qui pourrait devenir une grande vedette, un joueur qu'on va aimer, puis qui va nous faire gagner. Si t'es plus capable de voir ça, ton temps est fait.
Ouais, ben c'est ce que j'entends dire.
Bon.
Et dans le cas de Suzuki, j'ai jamais compris en passant que Claude Julien a au moins 3 ou 4 reprises dans des points de presse. Il disait, tu sais, Suzuki, il est pas si bon que vous pensez. Ou ben non, Suzuki, il a ses faiblesses lui aussi. Ou ben non, j'ai pas compris. C'est un jeune de 20 ans. Tu veux-tu y casser les genoux ou je sais pas quoi?
Ouais. On a de la misère, hein, Canadien. On a de la misère avec le développement du talent. Regarde ce qui se passe avec Kotkaniemi. On espère que c'est temporaire. On espère que c'est déjà arrivé des jeunes qui traversent des passes difficiles. Faut les envoyer dans la Ligue américaine. Ils se refont de confiance. Puis ils remontent après ça dans le gros club. Puis ils vont de Marchessault. J'ai vu l'histoire de Marchessault, là, dans les journaux cette semaine. C'est ce qui lui est arrivé. Il est revenu. Regarde le formidable joueur qu'il est devenu.
Huberdeau, tu as raison.
Mais tu sais, faut en prendre soin de ces talents-là. Là, tu sais, faut les chérir là, comme la prunelle de nos yeux. Là, c'est l'avenir du club, cela. Là, tu sais, si on est pour continuer à les aimer, pas les appuyer, à un moment donné, faut s'accrocher à des beaux joueurs, pas à des bons joueurs. En tout cas, puis l'autre affaire, honnêtement. Honnêtement, si Julien pour perdre sa job, là, bon, ok, il a peur. Mais à un moment donné, il va falloir que Bergevin rende des comptes aussi, là, Luc. Je veux dire, à un moment donné.
Moi,
là,
j'en suis pas au point de dire il faut se débarrasser d'eux. J'en suis simplement au point de dire, je pense qu'ils vont nettoyer la slate au complet, comme on dit. Moi, je m'attends à ça parce que Molson, il pourra plus le faire valoir aux gens. C'est correct, les billets coûtent cher, puis la bière coûte cher, puis les hot-dogs coûtent cher, puis vous allez venir quand même. Il arrive au point où il va falloir qu'il fasse un ménage complet.
À suivre, on va s'arrêter au retour. Il y a quelque chose qui se développe. C'est un petit peu loin de nous, mais en même temps, c'est très sérieux. Puis on va essayer de vous vulgariser ça comme du monde. Mais dans les faits, si je veux résumer, là, la Russie et la Turquie sont au bord de la guerre.
Oui.
On va résumer ça comme ça. Est-ce que ça va mener à la guerre? C'est pas ça que je dis. Mais je peux vous dire une affaire,
mais
ça chauffe
vraiment. Il y a plein d'autres
vraiment.
Conséquences, on va en parler.
Dans un instant, tout de suite après la pause. Là.